Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. Craignez-vous une confrontation directe entre la Turquie et Israël? Et pour nous aider à y voir un peu plus clair, on a demandé son avis à Rémi Daniel. Il est chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Il est au micro de Lise Benkemoun.
Rémi Daniel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin. Alors, vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Et aujourd'hui, on a demandé à nos auditeurs, est-ce que Israël devait se préparer à une confrontation directe avec la Turquie? Et j'avoue que j'étais un petit peu étonnée, Rémi, mais la majorité d'entre eux a répondu que non. 63% d'entre eux sur Insta, 60% d'entre eux sur Facebook, non. Et même 80% de non sur X. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi Daniel?
Je pense que vous avez des auditeurs qui sont très intelligents, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il faut quand même comprendre ce que ça veut dire, se préparer à une confrontation avec la Turquie. Une telle confrontation, elle aurait un coût humain, un coût financier très important. On parle d'un pays qui est membre de l'OTAN, qui a une armée très développée, très nombreuse. Et donc, considérer la Turquie comme une menace avec laquelle il y a un vrai risque de confrontation, cela voudrait dire faire des changements très importants pour Israël d'un point de vue de Tsahal et d'un point de vue de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est un petit peu exagéré? Il est vrai que la Turquie est un pays qui est hostile à Israël en ce moment. Il est vrai aussi que, à cause des changements en Syrie, il y a maintenant un point de contact très important entre les deux, et on n'est pas sûr que ce contact se fasse de manière totalement positive. Cependant, il y a encore certains intérêts communs à Israël et à la Turquie. Et puis la Turquie, ça n'est pas l'Iran. La Turquie reconnaît Israël. Il y a encore des liens diplomatiques entre les deux pays, très limités mais existants. Il y a encore des canaux de dialogue entre les deux gouvernements. Et je pense que la vraie question, c'est comment on va réussir à utiliser ce qui existe comme opportunité plutôt que se préparer à une confrontation.
Alors, c'est pas moi qui le disais, à vrai dire, la confrontation, c'est la commission à Nagel sur le budget de la défense et la stratégie de sécurité qui a conseillé justement au gouvernement de Benjamin Netanyahou de se préparer en disant que les ambitions de la Turquie de restaurer son influence en allant jusqu'à l'époque ottomane pourraient conduire à de graves tensions avec Israël. Donc j'imagine quand même que les gens de la commission Nagel ne sont pas totalement à l'ouest sur ce sujet, Rémi Daniel.
Ils ne sont pas totalement à l'ouest, mais par ailleurs, ils réagissent à chaud à un événement qui a eu lieu il y a moins d'un mois. Donc on peut s'imaginer que ce n'est peut-être pas la partie de leur rapport qui a été la plus préparée, mais qu'il s'agit encore une fois plutôt d'une partie qui a écrite un petit peu, qui a été écrite un petit peu rapidement. Par ailleurs, je ne suis pas non plus un grand fan du besoin qu'ont certains de toujours dire ottoman à chaque fois qu'on parle de la Turquie. Bon, par ailleurs, j'ai deux choses à dire sur ce rapport. Tout d'abord, il dit qu'il faut se préparer à la possibilité d'une confrontation avec le nouveau gouvernement en Syrie et que peut-être ce nouveau gouvernement pourrait devenir un proxy de la Turquie. Il fait quand même plus attention dans la manière dont il formule les choses que ce que les médias ont dit de lui. Donc c'est un rapport où chaque mot est quand même important. Cependant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que en faisant cela, en indiquant comme ça, de manière si officielle et si claire, un risque direct ou indirect, important ou pas, de confrontation avec la Turquie, il risque en fait de créer ce risque lui-même. C'est-à-dire que, bien entendu, ce genre de rapport est diffusé aussi en Turquie. Mmh. Et en faisant ce genre de publication, on ne fait que créer de nouvelles raisons de tension entre la Turquie et Israël.
Alors, c'est vrai qu'il y a un mois, Erdogan avait annoncé la rupture des relations diplomatiques et commerciales avec Israël, ce qui était quand même, enfin, il y a un peu plus d'un mois même, ce qui était quand même, on va dire... Il y a déjà eu beaucoup de crises, on en a parlé ensemble sur cette antenne, mais c'est quand même le summum d'en arriver à la rupture de relations, y compris commerciales.
Oui, vous avez raison, la rupture des relations commerciales qui a été annoncée en mai est une décision qui n'avait jamais été prise par Erdogan, quelles que soient les crises précédentes entre les deux pays. C'est une décision qui montre à la fois à quel point nous sommes dans une crise historique qui n'a pas de précédent et qui est vraiment très particulière de son intensité. C'est vrai aussi qu'en faisant cela, Erdogan aussi détruit une partie des capacités qu'auront ces relations à se reconstruire, puisque les gens d'affaires, qui étaient le cœur de la relation entre la Turquie et Israël lors de la dernière décennie, maintenant ne font plus de commerce entre eux, ils s'adressent à d'autres clients, à d'autres fournisseurs, et finalement, les liens se distendent naturellement et à long terme après cette décision d'Erdogan. En ce qui concerne les relations diplomatiques, les ambassadeurs ont été rappelés. Elles n'ont pas été suspendues ou arrêtées totalement jusqu'à présent. C'est-à-dire que Erdogan joue sur une certaine ambiguïté. On lui a posé une question, il a répondu en disant qu'il avait mis fin aux relations commerciales, mais en faisant entendre que c'était toutes les relations. Ça n'est pas le cas. Les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays continuent. Elles sont encore une fois à un niveau très bas et très limité, mais elles ne sont pas interrompues.
Dans ce fameux rapport, on conseille également à Israël l'éventualité de construire une barrière de sécurité fortifiée le long de la vallée du Jourdain. Est-ce que c'est réaliste ça, Rémi Daniel?
Je pense que la question qui se pose et qui est un peu oubliée, c'est la question en fait de la Jordanie, qui elle aussi subit les conséquences des changements régionaux. Et par exemple, la monarchie jordanienne est une monarchie qui, au sein de la Jordanie, lutte très fortement contre les islamistes et qui donc ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'islamistes au pouvoir en Syrie. Et donc, en fait, ce que dit cette commission, c'est qu'il faut se préparer aussi à des scénarios un petit peu dramatiques qui pourraient avoir lieu en Jordanie, qui serait, par exemple, la fin du régime actuel de la monarchie hachémite jordanienne, qui est plutôt favorable à Israël, mais qui, elle aussi, connaît un certain nombre de problèmes et a un certain nombre de faiblesses. La proposition d'une barrière est d'une certaine manière un peu la proposition qu'ont toujours les Israéliens, hein, puisque il y a une barrière dans le nord, il y a une barrière dans le Sinaï, il y a une barrière en Cisjordanie. Ce serait reconstruire une barrière. C'est peut-être une solution à court terme, et par exemple la barrière dans le Sinaï a prouvé son efficacité, mais elle ne peut vraiment fonctionner que si elle vient avec une vraie réflexion politique sur les relations entre Israël et la Jordanie.
Pour revenir sur cette affaire du partenariat commercial, Rémi, en 2023, la Turquie était le quatrième partenaire commercial d'Israël avec des montants de plusieurs milliards de dollars. Donc là, on est dans quelque chose qui change complètement la donne. Et puis, on le sait, les Israéliens avaient aussi beaucoup l'habitude d'aller en Turquie pour tout et n'importe quoi, et notamment pour faire du shopping ou même des soins médicaux. Est-ce qu'on va prendre l'habitude de faire complètement autrement et de contourner la Turquie?
Je pense que sur un certain nombre de points, nous n'avons pas le choix, puisque il faut bien comprendre que le commerce que vous avez décrit entre la Turquie et Israël, il s'agissait de produits de première nécessité pour les Israéliens et pour l'économie israélienne, qu'il s'agisse de produits agricoles ou de matières premières comme enfin des métaux ou du ciment. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, les Israéliens et les Turcs qui voulaient continuer le commerce ont trouvé des moyens de contourner la décision d'Erdogan, soit en passant par les territoires palestiniens, soit en passant par d'autres pays. Donc, dans les faits, sur certains produits, ce commerce continue, mais il coûte plus cher puisqu'il y a maintenant des intermédiaires.
Bien sûr.
Et sur d'autres produits, par exemple, il y a eu un article qui a été publié sur le fait que la production de la tomate israélienne est en forte augmentation puisque maintenant elle ne souffre plus de la concurrence turque. Sur d'autres produits, Israël, comme le ciment, Israël se tourne par exemple vers l'Égypte. Donc ce qu'on voit, c'est que cette décision crée beaucoup, beaucoup de défis pour les deux économies, puisque aussi pour l'économie turque, ça veut dire renoncer aux dollars israéliens, et l'économie turque n'avait pas vraiment normalement la capacité de renoncer à ces dollars-là. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, Israël réussit à trouver des solutions. Encore une fois, une partie du prix de ces solutions, c'est le consommateur israélien qui la paye à la fin de la situation.
Ma dernière question, Rémi Daniel, est-ce que Erdogan, il a fait cela parce qu'il y croit vraiment et qu'il est foncièrement anti-israélien, ou est-ce que c'est plutôt une manœuvre politique parce qu'on lui reprochait d'être trop timoré dans son soutien à Gaza et aux Palestiniens?
C'est un peu des deux. Fondamentalement, il n'y a pas vraiment de secret. Erdogan vient du mouvement islamiste turc, très lié aux frères musulmans et donc très lié au Hamas. Et Erdogan est un des grands soutiens du Hamas. Par contre, il avait en effet pris en considération d'autres facteurs qui l'avaient empêché jusqu'ici de mettre fin aux relations commerciales avec Israël. Ce qui a changé, c'est quand même les élections municipales du printemps dernier où le parti d'Erdogan a perdu pour la première fois de son histoire, notamment parce que Erdogan était très critiqué pour sa décision de continuer le commerce avec Israël. Et donc finalement, Erdogan, qui au fond de lui est quand même très très pro-palestinien, qui est très anti-israélien, avait en plus une pression intérieure en Turquie qui l'a conduit à prendre cette décision. Par ailleurs, au dernier point, pour lier un peu tous ces sujets, nous sommes dans une période où Erdogan et ses soutiens islamistes sont un peu enivrés par la victoire en Syrie. Et ça aussi, ça veut peut-être dire que la position turque vis-à-vis d'Israël sera encore plus dure que ce qu'on a vu par le passé, parce qu'un certain nombre, par exemple, d'islamistes turcs nous disent, finalement, la Syrie, ça n'était qu'une première étape. La prochaine étape sera la libération de Jérusalem, de la Palestine, de l'Al-Aqsa. Et c'est dans cet esprit un peu revanchard, combattant et expansionniste que se trouvent beaucoup de soutiens d'Erdogan en ce moment.
Et est-ce que les 10 à 15 000 juifs qui vivent encore aujourd'hui en Turquie, la plupart à Istanbul, sont en danger, Rémi Daniel?
C'est une question très compliquée qui met assez mal à l'aise les Juifs de Turquie eux-mêmes qui ne cessent de prouver leur fidélité, leur loyauté à l'État turc. Ce qui est sûr, c'est que la position turque de ce point de vue-là est très ambiguë. D'un côté, Erdogan prétend qu'il est anti-israélien mais pas antisémite. Il a publié par exemple un message de salutation à la communauté juive pour Hanouka. De l'autre, on a à la fois des déclarations autour du gouvernement turc et même un projet de loi qui avait été présenté au Parlement mais qui est un petit peu coincé, qui prévoyait des sanctions très dures contre toute personne de nationalité turque qui prenait pas au soi-disant génocide à Gaza. Ce genre de décision ouvre la porte à certaines décisions assez dangereuses pour la communauté juive. Et c'est vrai qu'il y a en ce moment une certaine crainte vis-à-vis de l'avenir de cette communauté, malgré les décisions officielles, à la fois du président Erdogan et du gouvernement turc, et de la communauté juive de Turquie.
Merci beaucoup Rémi Daniel, chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie, d'avoir été avec nous pour cette analyse. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Bonne journée.